Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous allons à l'aventure avec un cultivateur de l'eau verte et de la matière brune. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Moi, c'est Jean-Michel Sauvage. Je suis un vieux paysan maintenant, hein, 67 ans, bientôt à la retraite. J'ai pratiqué plusieurs agricultures. Hein. L'école m'a formé à l'agriculture, à l'agro-industrie. Quoi, hein. Donc, j'ai utilisé pendant de nombreuses années les produits chimiques sur mes champs. Quoi, hein. Jusqu'à temps que je craque et que je change d'orientation. Et aujourd'hui, je pratique l'agriculture paysanne biologique. D'un petit village du Pas-de-Calais, où bah, je cultive pour l'instant 60 hectares, bientôt 50. Je suis en train de travailler la transmission de mon outil ou forme coopérative. Moi, je suis fils de paysan, mon père était paysan, mes grands-parents étaient paysans. J'ai fait jeûner, moi. J'ai sorti avec un brevet de technicien agricole à 19 ans. Puis, ils n'ont pas voulu de moi pour faire un BTS parce qu'ils ne me trouvaient pas assez bon. Je suis rentré dans le métier relativement tôt, quoi. Mes parents, qui travaillaient beaucoup, ont eu une vie difficile. Hein. J'ai eu la grande chance de rencontrer un copain qui m'a présenté, à l'époque, c'était Vent d'Ouest. Vent d'Ouest, c'était le journal des travailleurs paysans. Et sorti de l'école, ma première formation, j'ai arrivé à comprendre pourquoi mes parents, c'était difficile le métier, pourquoi ils ne gagnaient pas beaucoup, pourquoi ils travaillaient beaucoup. Donc j'ai fait l'école paysanne à Paris pendant 10 jours, et on m'a appris c'était quoi le capitalisme. Quoi. Pas à l'école, on ne nous apprend pas ça. Quoi. J'ai appris comment on était manipulé par les médias, où nous, les petits travailleurs, on ne s'y retrouvait pas. Quoi. J'ai appris comment la publicité nous manipulait aussi le cerveau. Quoi. J'ai appris aussi comment on était traité fiscalement différemment. Je me suis dit, si on n'est pas bon, ce n'est pas forcément de notre faute. Quoi. C'est qu'il y a quand même un modèle qui a tendance à pousser dans un sens et pas au détriment d'un grand nombre de gens comme les petits paysans que nous étions à l'époque. Hein. Parce qu'à l'époque, moi, quand je me suis installé paysan, donc c'était en 83, mais je suis sorti de l'école en 76, l'année qui faisait sec. Hein. Il y avait 1,6 million de paysans dans mon village, il y avait 14 paysans, et tout le monde avait une binette. Puis ils étaient dans leur champ de betterave à couper l'herbe, des petites structures avec des champs relativement propres. Hein. Et moi, j'étais le technicien. J'avais appris à l'école ce que c'était les plantules, ce que c'était les produits chimiques à détruire. Et ils m'appelaient pour savoir comment faire, quoi. J'étais le nouveau paysan du village parce que j'étais le plus jeune, quoi. Et que la génération d'avant moi, elle avait mis en route la chimie dans les années 50. Et moi, dans les années 76, on arrivait déjà avec une structuration de la chimie beaucoup plus importante. On a beau dire, mais quand on est nu. Chez nous, on faisait du cochon, on faisait de la céréale, du cochon. Mes parents, on faisait naître les bébés cochons, quoi. Hein. Et puis, on vendait les bébés, et puis, on s'en sortait pas, quoi. On a fait, après notre engraissement, après, on a pris de l'autonomie. Hein. On était à la recherche de l'autonomie. Et plus on prenait de l'autonomie, et plus ça nous paraissait facile, la vie, quoi. Hein. Pris l'exploitation de mon père, on était installé en GAEC, hein, les structures juridiques qu'il y a entre père et fils. 2000, les cours du port étaient suffisamment bas, je suis tombé une première fois. Donc on a pris les économies qu'on avait fait pendant 20 ans pour les réintégrer dans l'exploitation. En 2005, eh bien, je suis tombé une deuxième fois. Et donc là, j'ai été voir le président du tribunal de grande instance. J'ai eu la possibilité de payer ma dette sur 14 ans. Puis en soulevant le problème que c'est le problème de beaucoup de gens qui sont mis en difficulté par un modèle économique qui ne les respecte pas. Quoi. Si on donne aux moyens aux gens, il n'y a pas de métier difficile. Il y a que des métiers où on doit gagner sa vie parce que c'est le travail qui crée la richesse. Il n'y a donc qu'une raison qu'on n'arrive pas à en vivre. Quoi. Si on n'arrive pas à en vivre, c'est qu'il y a un problème.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en trois mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Il y a 20 ans de ça, quand j'étais gamin, en culotte courte et quand on allait biner les betteraves, c'est l'époque, hein, c'était rempli d'alouettes. Et aujourd'hui, il y en a encore deux couples. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Hein. Et j'ai l'impression que quand elles montent dans le ciel, c'est pour m'appeler au secours, quoi. C'est des oiseaux qui résistent, hein, dans un milieu où on est en train de foutre en l'air, quoi. Hein. Elles témoignent. Voilà, moi, quand je vois les alouettes, je suis en extase, quoi. Le vivant, actuellement, les premiers qui arrivent, c'est les bourdons, hein, dans les serres, avec les fleurs, la facélie notamment, hein, qui est une fleur très odorante, hein. Et donc, ils nous accompagnent dans notre travail parce que quand on est maraîcher ou ma fille maraîchère, on est obligé d'avoir des légumes un peu plus tôt pour être présent sur le marché, quoi, hein, avec des produits locaux. Et donc, les bourdons viennent polliniser les premières courgettes, quoi, hein, parce que s'il n'y a pas de fleurs mâles. Et bizarrement, les fleurs mâles apparaissent toujours après les fleurs femelles, quoi, hein. Donc, ça veut dire que le premier passage. Ben, si les fleurs mâles n'étaient pas là, elles n'ont pas été fécondées, et donc elles commencent à pousser, hein, la petite fleur de... Et puis, elle tombe parce qu'elle n'a pas été fécondée, quoi. Donc l'important des insectes... Le goût, moi c'est la prune. Hein, parce que les filles, elles ne comptent pas pour des prunes, j'adore ce fruit. La couleur, moi c'est le rouge. Alors, le rouge, parce que nous, on est sur Courcelles-le-Comte et sur un terrain de combat, hein, de la guerre 14. Et le rouge, c'est les poppies des Anglais, hein, la fleur rouge, c'est-à-dire quand les terrains avaient été retournés par les obus en 14, au printemps, tout était rouge, parce que la faculté du coquelicot, c'est d'apparaître quand il y a une grosse perturbation, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus sur les bas-côtés, mais quand on les taille, d'un seul coup, les coquelicots réapparaissent, quoi. Hein. Le rouge, c'est la mémoire de ces gens qui sont tombés, quoi. Hein. L'histoire, c'est une part importante de ma vie. La texture, moi j'adore la terre et j'invite tout le monde à travailler la terre humide et à faire des enduits à la terre à main nue, quoi. La terre est une très grande sensualité, quoi. Travailler la terre avec ses mains, c'est extraordinaire, ça fait un bien fou dans tout son corps, quoi. L'odeur actuellement, c'est l'odeur des acacias qui sont en fleurs. Et aujourd'hui, on a des allées d'acacias le long des routes, c'est d'un parfum extraordinaire, quoi. Surtout qu'il fait chaud, qu'il n'y a pas de vent. Alors c'est une plante envahissante pour certaines régions, mais c'est une plante qui pousse très vite. Hein. C'est un arbre qui fixe l'azote de l'air, hein. Qui ne fait pas un gros bouquet, mais qui permet de laisser, quand on les plante dans les champs, qui permet de ne pas trop ombrager. Et le son. J'aime le métal. J'aime la musique hard rock. Ça me fait un bien fou, parce que sûrement que c'est les vibrations du son qui font vibrer mon corps, quoi. J'aime beaucoup.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Alors, je pourrais dire il y a deux axes. Ce qu'on pratique au jour le jour, hein, ce qu'on essaye de techniquement de mettre en place. Hein. Quand je parlais des arbres, moi j'ai planté 6 km de haies, on va encore en planter. Je pratique l'agriculture biologique. Dans ma rotation, cette année j'ai encore 15 hectares de luzerne. Luzerne, bon, des fois on rend une coupe, mais généralement on la broie pour nourrir le sol, quoi. On fait la jachère comme ils appelaient la jachère à l'époque, tu vois, laisser au sol le temps de se reposer, quoi. On désherbe tout manuellement, quoi, hein. Donc pas de chimie. Beaucoup de travail manuel témoigne de ce qu'on fait, que c'est techniquement possible, que techniquement on tient la route. Hein, je considère que sur 60 hectares que je cultive, j'ai donné 10 hectares à la nature entre les haies et les bandes enherbées, quoi. Hein. Ça devrait être une pratique. Donc, avant de dire il faut faire ça, on le fait. Puis après, il y a l'autre volet, c'est le volet revendication, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut témoigner qu'il faut entrer dans une démarche de changer les règles du jeu, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour à ma femme « Ah ouais, mais Jean-Michel est toujours parti, il ne va pas au brocante, il n'est jamais là. » Il lui dit « Mais c'est son deuxième métier, quoi, hein, d'être militant, quoi. Hein. » C'est aussi une partie importante de ma vie, hein, peut-être que je délaisse d'autres choses, hein, au détriment de ceux qui vivent avec moi. Ça me paraît important de ne pas avoir un projet qui se résume à une activité toute personnelle, quoi, et qu'il faut que, quoi, on croit, on puisse le revendiquer pour le plus grand nombre, quoi. Hein, on ne peut pas aujourd'hui continuer dans une société comme ça qui est en train de foutre le camp pour des intérêts qui sont tout à fait financiers. Et on essaye de montrer qu'on peut faire autrement et de dire qu'on peut faire autrement, de casser les corporatismes. Parce qu'on est tous dans le même bateau et on a tous intérêt à être solidaires, quel que soit le parcours qu'on a ou le métier qu'on a, quoi, hein, si on veut vivre sereinement.
Les croquants vont en ville à cheval sur leurs sous, acheter des pucelles aux saintes bonnes gens. Les croquants leur mettent à prix d'argent
la main dessus, la main dessus.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
L'humain fait partie du vivant, quoi. Et aujourd'hui, on est en guerre contre le vivant, quoi. Je peux témoigner de tout ce qui se met en place. Tout partout, on est en guerre. On est en guerre contre nous-mêmes. L'humain fait partie du vivant. La question, c'est pourquoi on est en guerre ? Qu'est-ce qui fait qu'on soit en guerre contre soi-même, quoi ? Contre son voisin, contre tout ce qui est vivant, quoi. Alors, qu'est-ce que l'humain il peut apporter ? Notre pratique. Alors, on soit consommateur, on arrête d'aller au supermarché, et puis on va chez le petit maraîcher bio du coin, dans son village. C'est des choses très concrètes. On va conduire ses gosses à l'école à vélo, On demande à la mairie qu'elle prenne une disposition pour faire une ramasse en calèche. Enfin bref, on trouve des initiatives pour que... Chez nous, il y avait une petite épicerie, c'est très concret. Et on n'a pas besoin de s'appeler Leclerc ou Mulier pour vendre des fromages ou des bouteilles de gaz ou des bouteilles d'eau ou du papier cul, quoi. Et l'activité locale permettait le lien social, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se parle plus, on ne se connaît plus. Et mon village, il y a 40 ans de ça, on se connaissait tous. Voilà, on n'était pas d'accord, mais à Courcelles, il y avait une usine d'ouvriers, il y avait la gauche, il y avait la droite. Mais on se croisait, on se parlait, on se rencontrait, notamment à l'épicerie, quoi. Il n'y a plus de lieu où, au jour le jour, on prend les nouvelles du voisin. Il n'y a plus de lieu, ça c'est... Voilà, ça c'est des choses concrètes qu'on peut faire, quel que soit le métier qu'on a. Il faut fermer la télévision, quoi. Il faut aller à la rencontre de son voisin, quoi. Le combat est d'abord très local, quoi. Il est très local pour pouvoir être mené après de point de vue plus global, quoi. Du local pour entraîner un mouvement global, quoi.
Qu'une fille, une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues.
On va passer à la question d'actualité. Si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, tendez la feuille au prochain épisode de la chronique qui paraîtra semaine prochaine sur les ondes de notre radio PFM 99.9. La proposition de loi, dite « loi du plomb », du nom du sénateur qui en est rapporteur et premier signataire, réellement intitulée « Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur », a été votée au Sénat le 28 janvier. Le texte comporte de nombreux éléments qui, si celui-ci est adopté, vont impacter l'environnement et l'agriculture tels que l'allègement de la réglementation sur les produits phytosanitaires. Elle concerne en outre la suppression de l'obligation de séparation entre la vente et le conseil, en permettant aux vendeurs de pesticides de conseiller les acheteurs, la suppression également de l'obligation de certificat d'économie des pesticides lorsque les produits ont été achetés à l'étranger, la réautorisation par dérogation de la mise sur le marché de certaines substances néonicotinoïdes. On rappelle une substance qui va annihiler les communautés d'abeilles, notamment d'abeilles sauvages, mais également la création d'un conseil d'orientation pour la protection des cultures qui pourra prioriser le travail sur les autorisations de mise sur le marché de l'ANSES en fonction des attentes des filières et non des priorités de santé publique. Pour info, la France est déjà le deuxième plus gros consommateur de pesticides et le second pays qui autorise le plus de pesticides en Europe. Ce texte comporte également la simplification des ICPE pour les bâtiments d'élevage. Au niveau pratique, cela signifie que les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, comme certains bâtiments d'élevage, seraient simplifiées grâce à des conditions de consultation du public plus souples et le renforcement des obligations de motivation et de transparence des avis de l'autorité environnementale. Certains bâtiments d'élevage pourraient d'ailleurs bénéficier d'une installation simplifiée en échappant aux besoins d'autorisation ICPE grâce à un seuil relevé. Le dernier article de la proposition de loi vise à encourager notamment l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à privilégier les procédures administratives plutôt que judiciaires en cas de poursuite. On parle également dans cette proposition de loi de sécuriser l'accès à l'eau, objet de son titre 3, ce qui passerait par la restriction de la définition de zone humide, alors qu'actuellement seul un critère peut la définir. Et la déclaration des projets de stockage d'eau comme d'intérêt général majeur, afin d'en renforcer la solidité juridique. On pense à nos mégabassines. Cette déclaration permet de rehausser la place de l'agriculture dans la hiérarchie des usages de l'eau en plaçant au niveau juridique au même niveau que l'environnement. Ce qui permet, par exemple, en cas de recours contre une réserve, de défendre le caractère agricole d'intérêt majeur. On remarque un des éléments les mieux accueillis par un consensus, notamment l'article 4 de la proposition de loi, qui prévoit de mettre en place des modalités de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture, en particulier pour les prairies. Et dans un contexte de dérèglement climatique, il n'y a pas eu d'objection à ce dernier article. Le gouvernement a annoncé une procédure accélérée, c'est-à-dire une seule lecture dans chaque chambre. Adoptée par le Sénat le 27 janvier, cette proposition de loi est examinée en commission du développement durable à l'Assemblée nationale le 7 mai. Le texte est examiné les 13 et 14 mai par la commission des affaires économiques, dont la version sera soumise en séance plénière à la fin du mois. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
On ne s'imaginait pas qu'on allait faire marche arrière parce que il y a quand même un travail qui est fait sur le terrain par beaucoup d'associations environnementalistes, hein, associations aussi sur la santé. Hein. L'agriculture touche beaucoup la vie de tous les jours, quoi. Hein. Et moi, je mettrais en premier la santé. Hein, aujourd'hui, on voit des gamins mourir de leucémie. Non, la loi a évolué. Les paysans, ils ne peuvent plus traiter quand il fait du vent. Ils traitent la nuit. Ils ont des rampes éclairées. Mais seulement, le phénomène de l'eau, quand il y a de la rosée, à un moment donné, la rosée, on ne la voit plus sur les feuilles. Alors, elle n'a pas descendu, elle a monté. La rosée, elle s'est évaporée. Hein, c'est ce qui fait le petit cycle de l'eau, hein, qui monte dans nos campagnes. Là où je vis, le matin, tu as envie de vomir tellement ça sent mauvais, quoi. Tellement les produits chimiques impactent. Si on les sent, moi je me pose la question, est-ce qu'on les respire ? Et ça c'est la santé. Alors c'est la santé des paysans. Les paysans sont les premiers victimes de ça. Mais ils se cachent. Je fais partie d'une coopérative où un coup j'ai dit, mais on devrait mettre sur les bidons comme on met sur les paquets de cigarettes, quoi. Hein. Utiliser ces produits tue, quoi. Hein. Et je me suis fait incendier par les collègues. Première chose, la santé. Deuxième chose, eh ben, le vivant, on en parlait tout à l'heure, hein, la biodiversité. Hein. Car moi, je fais pas de mesures, mais j'ai bien vu que pour mes alouettes, quand j'étais jeune, il y en a plus, quoi. Hein. Il y en a plus. On a créé un espace chez nous de zones boisées diversifiées avec multiculture. Quand on fait une porte ouverte chez nous, on voit les gens du Gonne venir nous dire « mais on veut venir faire des relevés ici parce que ça sent tellement ». Si l'homme ne la contrarie pas, elle est capable de se défendre dans la nature, quoi. Elle a les moyens de se défendre. On parlait tout à l'heure pour l'eau. Ben, moi, j'ai fait une méga bassine chez moi. J'ai pas beaucoup d'eau. Hein. Je fais de l'irrigation pour mes oignons et mes carottes. Je ferais pas d'oignons, pas de carottes si je faisais pas. C'est des cultures qui, en agriculture biologique, me permettent de dégager un revenu. Donc, on a fait une méga bassine pour arroser deux fois 2,5 hectares, 5 hectares. Donc, c'est 1000 mètres cubes. C'est petit. Eh bien, j'ai rien planté autour de cette bassine. Aujourd'hui, c'est une forêt, quoi. C'est-à-dire que la nature a pris possession du terrain. Donc si l'homme n'intervient pas, la forêt se reconstruit, quoi. Hein. D'abord les ronces, et là, les arbres envahissants, c'était les sols, les bouleaux, et les acacias sont arrivés, quoi. Hein. On a une multitude d'exemples, à la fois dans notre pratique, et à la fois dans la revendication des gens qui sont soucieux de tout ça, qu'on peut faire autrement, quoi. Et donc, le problème, c'est que les paysans, qu'ils aient une petite structure ou une grosse structure, ils s'imaginent toujours qu'ils vont gagner du pognon en faisant l'agriculture. Non, c'est réservé à une minorité, ça. Hein. Ils se disent qu'ils vont gagner de l'argent en pratiquant des méthodes artificielles, chimiques. Hein. Et globalement, ça ne marche pas parce que les faits sont là. On est passé de, quand j'étais jeune paysan, 83 à 1,6 million de paysans. 400 000 aujourd'hui. Et quand ils font leur fête des jeunes agriculteurs, ils en annoncent 200 000 demain, quoi. Hein. Donc on a beau faire des petits films pour expliquer qu'on pourrait faire mieux, effectivement, mais les industriels sont soucieux aussi, je ne dis pas que McCain ne l'est pas. Hein. Pour sauver le réchauffement climatique, pour sauver la biodiversité, il faut une complexité de choses. Et il y a plein d'associations qui travaillent à cette complexité. Alors le problème, c'est d'entendre le besoin de revenus. Moi, j'ai vu plein de petits maraîchers faire 50 arts, un hectare de maraîchage, un an, deux ans, trois ans, et puis toucher le RSA, et puis à un moment donné dire « on peut plus, quoi ». Nos pratiques peuvent évoluer à condition qu'on soit reconnu dans notre travail. Et la reconnaissance passe aussi par une rémunération du travail, quoi, hein, qu'il n'y a pas très peu en agriculture.
Travailler encore, travailler encore, assis rouge et mandant.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Un tout petit rendez-vous dans la communauté de Ceux d'Artois, où le département fait un travail intéressant, je pense très intéressant, sur les voies douces. La communauté de Ceux d'Artois, qui est une communauté très agricole et très peu peuplée d'arbres, à un ancien chemin de fer qui faisait Bapaume-Hachette. Et ils ont pensé faire le chemin cyclable dans cette voie de biodiversité, quoi. Donc moi, j'appelle les gens à se manifester en disant oui à la voie cyclable, mais on la crée en déclarant une déclaration d'utilité publique qui est inscrite dans la loi. On ne crée pas de la voie verte en détruisant le peu de vivant qu'on a dans une communauté de communes. Ça, c'est un petit rendez-vous qui se fait sur papier pour répondre à la communauté de communes. Le deuxième rendez-vous, c'est du 17 au 20 mai, hein, qui se passe à Compiègne, et qui est le grand rendez-vous sur la destruction de 3000 hectares pour créer le Grand Canal. Entre parenthèses, le Grand Canal, c'était un partenariat proposé par l'État à deux entreprises industrielles que sont Vinci et Bouygues, deux industriels qu'ils ont refusé de prendre en charge la construction et la gestion. Ils ne voulaient pas de la gestion, ils voulaient bien la construction, parce que ce n'était pas rentable. Hein. Voilà des industriels qui sont qualifiés pour gérer des entreprises et gagner de l'argent, et qui disent au pouvoir public, votre projet n'est pas rentable. Eh bien, les pouvoirs publics, notamment Bertrand, hein, le président de la région, a décidé de construire le canal. Un projet à 6 milliards d'euros, qui est aujourd'hui passé à 10 milliards, dans une conjoncture où on n'a pas d'argent. Dans une situation où on va détruire 3000 hectares, qu'on va détruire des milieux vivants, des milieux notamment le long de l'Oise. Hein. Alors que quand le canal du Nord a été construit, tout était pensé pour doubler les écluses. C'est-à-dire qu'on peut aménager le canal du Nord à moindre frais pour répondre à des enjeux de transport bien légitimes. Quoi, hein. Ensuite, je voudrais citer un livre d'une association qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui a écrit un livre sur reprendre la terre aux machines. Plus que la chimie, c'est le mécanisme qui pèse sur les agriculteurs et qui montre l'impasse dans laquelle on est, même si on fait du bio, si on fait de l'agriculture paysanne. L'Atelier Paysan pose la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Faire du droit à l'alimentation comme on a un droit à la santé. Et ça permettrait de répondre à la survie de milliers et à l'installation de millions de petits paysans. Je voudrais dire changer la loi.
Ensemble révoltons-nous, levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Voici que cet épisode aux côtés d'un ratisseur d'idées fertiles prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie.
Pain des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.